Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diop, Les Hôtesses Villard, Fanny Blum, Jérôme Minière, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et de mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 12 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université, sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend!
Salut! T'es un jeune créateur professionnel? T'as un spectacle à proposer dans n'importe quelle discipline des arts vivants? T'as jusqu'au 30 octobre pour le faire à vuesurlarelève.com. Depuis 1996, Vue sur la Relève a servi de tremplin aux premiers spectacles d'Alex Nevsky, Pierre Lapointe, Vincent Vallière, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière, Carquois, Lisa Leblanc, moi-même, Sarah Dufour et de nombreux autres. Grâce à Vue sur la Relève, ton spectacle pourrait aussi prendre la route du Québec et d'ailleurs. Présenté par Loto-Québec en collaboration avec Québecor, Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 5 au 16 avril 2016.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour, bienvenue à l'émission Pop en stock. Nous sommes l'épisode 68. Pop en stock est un portail unique dans le monde francophone se déclinant sous la forme de revues web, podcasts et collections d'essais. Toutes les semaines au podcast, nous plongeons dans un phénomène de la culture populaire pour l'analyser et comprendre comment il nous affecte dans nos vies quotidiennes. Et aujourd'hui, on parle de café. Et c'est quelque chose qui nous influence dans nos vies quotidiennes. C'est bien ça. En tant que personne qui buvons du café, on s'en rend bien compte, mais dans un point de vue aussi plus global, toute la manière dont on fait le commerce du café nous a beaucoup influencé encore à ce jour. J'ai trois collaborateurs ce soir avec moi. Tout d'abord, on a André Péloquin.
Bonjour.
Qui est un journaliste et caféinomane.
Oui, totalement. Je m'assume.
On a Martin Sasseville, sociologue, professionnel de recherche et caféinomane.
Ah, bien sûr. Bonjour.
Et finalement, Rachel Hippolyte. Une touche à tout, prof et caféinomane.
Absolument.
Je pense que c'est quand même important de... Ben, c'est Martin qui a apporté son café, par exemple.
Oui, oui, oui.
Moi, j'aime aussi dormir dans la vie, donc c'est pour ça que...
Chose qui arrive.
J'en bois pas après 3 heures.
Il y a du monde
de
même,
ça. Et vous pensez qu'ils boivent combien de tasses de café par jour sur la Terre?
Sur la Terre? Ouais. Hey boy!
18 milliards.
2,25 milliards.
Tabarnouche!
Wow! C'est beaucoup moins que ce que Rachel a dit, mais c'est quand même beaucoup. C'est l'équivalent de 242 piscines olympiques.
Aïe!
Se nager, de nager dans du café.
Ça serait peut-être ça qu'il faudrait faire pour les pipelines, ça.
Un gros déversement.
En effet, oui.
Malade.
Intraveineuse. quel est, selon vous, le pays qui boit le plus de tasses de café durant une année par personne?
Je dirais que le Brésil.
Ouais, je pense au Brésil aussi.
C'est la Finlande.
Ben voyons!
Oh, ouais.
Selon la ressource que j'ai consultée, qui est ilovecoffee.jp, donc des Japonais qui ont dit ça, donc ils se boivent 1252 tasses de café par personne, mais durant une année au complet.
Ben c'est frisquet, pourquoi pas?
C'est ça, peut-être que parce qu'ils n'ont pas beaucoup de soleil, donc pour se garder réveillé.
Mm-hmm.
Hypothèse comme ça. Et le record de la plus grande ingestion de café en peu de temps?
Aucune idée.
82 tasses de café pendant 7 heures. Il y a un bonhomme, j'imagine, qui a fait ça. Et donc, 7 heures, c'est comme de 9 heures le matin à 4 heures l'après-midi. 82 tasses de café. Moi, je me demande qu'est-ce qu'il pensait.
Dormi après?
Moi, je me pose des questions au niveau digestif, là, le pauvre.
Oh
le pauvre.
Il a dû monopoliser une salle de bain après ça.
Oh que oui.
Oh, oh que oui. Ouais. Et parlant de choses extrêmes...
Mm-hmm.
À ce qu'il paraît, il y a une légende urbaine, si on rentre dans un Tim Horton et qu'on commande un Wayne Gretzky, on reçoit un café avec 9 sucres et 9 laits. Donc c'est, moi, je trouve ça génial comme légende urbaine parce que ça parle de café, de Wayne Gretzky, donc de hockey et de Canada en même temps. Et c'est exactement de ça dont André va nous parler ce soir.
Oui, exactement. Je vais vous parler un peu de comment Tim Horton est devenu une espèce de pièce importante de la courte pointe canadienne, bien malgré nous. Avant de vous expliquer un peu comment c'est arrivé, on va réintroduire un peu la chaîne parce que tout le monde a un peu son idée de ce que c'est qu'un restaurant Tim Horton. Là, c'est un restaurant de restauration rapide qui a été fondé en 64 à Hamilton, en Ontario. À l'époque, c'était une offre de niche, pareil, parce que la restauration était dominée par le poulet, les burgers et la crème glacée, quand on parle de restauration rapide. Mm-hmm. Et eux n'offraient que café et beignets. Alors, ils faisaient concurrence sans faire vraiment concurrence.
OK, oui. Il n'y avait pas de sandwich à l'époque.
Non, ça, c'est venu plus tard. Et justement, Fait Local a souligné, parmi les premiers partenaires de Horton dans cette entreprise, Tim Horton étant le joueur de hockey, on retrouvait un dénommé Jim Charade, un musicien jazz né à Montréal, qui a travaillé auparavant chez le producteur de pâtisserie Vachon. C'est un peu à lui qu'on doit un peu les beignets frits. L'idée de nommer l'entreprise Tim Horton afin de capitaliser sur la renommée du partenaire de Charade, le joueur de hockey des Maple Leafs, bien sûr, vient de lui d'ailleurs. Et déjà là, on commence à insérer Tim Horton, l'entreprise, dans la légende canadienne. Parce que Tim Horton, c'est non seulement une entreprise canadienne qui porte le nom d'un Canadien,
mais c'est aussi. C'est même pas son vrai nom, hein? C'est Miles Gilbert Horton.
Ah, ça, pour je l'ignorais.
Oui, ça, je l'ai vu cet été quand j'étais allé au temple du renommé du hockey.
Ben mon Dieu, il a choisi un nom, ma foi, fort catchy.
oui.
Alors, en plus, il choisit un nom qui est très accrocheur et il jouait, c'est un joueur de hockey, donc déjà au Canada, c'est incroyable, c'est déjà un demi-dieu. Et il jouait pour les Maple Leafs, qui est une équipe aussi qui est canadienne. Et en plus, sa réputation sur la glace, c'était celle d'un homme typiquement canadien.
Un bûcheron.
C'est ça, exactement. C'est vraiment un bon gars qui se plaint pas. Il était, entre guillemets, authentique. Et il avait déjà tenté d'autres commerces. Il y a notamment eu un garage et un autre restaurant. Mais avec Tim Horton, il s'est imposé. Il a eu son premier succès à titre de restaurateur, finalement, en l'établissant à Hamilton, qui est une ville qui était très industrielle.
Oui, absolument. Oui.
Alors, exactement. Et c'est ouvert 24 heures. Oh. Alors, les employés, avant d'aller à l'usine, avant de sortir à l'usine, allaient s'abreuver de café.
Est-ce que tu es au courant si c'était le seul restaurant 24 heures ou le premier? Parce que McDo est 24 heures.
Je ne saurais dire pour le 24 heures, mais c'était le premier restaurant à offrir, en restauration rapide, à offrir beignets et café dans le coin. Okay. Il y a eu aussi tellement que, je pense, dans le temps de un an ou deux, il y a eu une deuxième franchise Tim Horton dans cet endroit-là pour répondre à la demande. Alors déjà là, on a fait des produits, tu sais, qui sont autant de niches parce qu'ils sont inattendus, mais aussi de masse parce qu'on s'entend que c'est assez simple, du café et des beignets, là. Mais malgré le nom Tim Horton, le succès de l'entreprise vient à un autre de ses partenaires qui s'est inséré plus tard dans l'entreprise qui s'appelle Ron Joyce. Celui-ci a racheté les parts de Tim Horton dans l'entreprise à sa famille en 1974. Il est mort dans un accident d'auto, le pauvre Tim.
En état d'ébriété.
Il y a certains qui disent état d'ébriété. Il y en a qui disent qu'il était sur un buzz
dans tes famines.
Exactement. Alors, il y avait son petit côté wild quand même. Alors,
c'est étonnant 64... que ce soit pas avec du café.
Oui, c'est ça. Ça ne suffisait pas à un moment donné, à force de baigner dedans. Fait qu'en 74, Ron Joyce achète les droits qui sont revenus à la famille Horton pour la modique somme de $1 million. À l'époque, on comptait 40 restaurants Tim Horton. Aujourd'hui, on en compte environ 4600. En 2013, l'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 3,2 milliards, un bond de 4%. En 2012, Tim Horton dépassait McDonald's en nombre de restaurants vers le pays. En 2004, le terme « double-double », qui est un peu moins pire que le Wayne Gretzky, c'est-à-dire « deux crèmes, deux sucres », est rentré dans le Canadian Oxford Dictionary. 4 millions de dollars de nos poches, des citoyens, ont été investis dans la construction et l'opération d'un Tim Horton à Kandahar afin de maintenir le moral des troupes canadiennes.
Je savais pas que c'était aux frais des contribuables.
C'est le point qu'on a fait valoir, ça va aider au moral des troupes. Peter McKay, l'incroyable Peter McKay, a amené Condoleezza Rice dans une succursale lors d'une visite visite pour prendre une photo aussi officielle au Canada. C'est à quel point ça s'est inséré.
C'est vraiment devenu un synonyme d'identité canadienne.
Oui, exactement. C'est vraiment, ça fait partie de notre identité canadienne.
D'ailleurs, tu disais qu'au début, ça pognait pas les Tim Hortons.
Non, c'est le premier restaurant que Tim Hortons a lancé, mais ça s'appelait pas Tim Hortons.
Je sais qu'au début, Tim Hortons invitait ses collègues de hockey à venir signer des autographes, faire de la publicité, puis les payait en beigne.
Oh!
Genre, le lendemain, il y avait un message, merci avec une tonne de boîtes de beignes, puis les gens, ils disaient, je savais même pas quoi. Je les ai mis à la poubelle, je savais pas quoi faire avec la beignes.
C'est une pratique que l'entreprise pratique toujours, finalement. Je vais en parler tantôt, mais on remercie encore les personnalités qui en font la promotion sans échange d'argent. Alors, Tim Hortons est devenu synonyme d'identité canadienne, tout d'abord en s'insérant dans nos communautés, en étant autant son miroir que son idéal. Alors, chez Tim Hortons, on y propose de la nourriture et des breuvages pour le vrai monde, dans un environnement qui est pour le vrai monde. On s'entend que ça fait pas café tendance, trendy, indépendant, dont Rachel va nous parler un peu tantôt. Mais en même temps, cette nourriture-là pour le prolétariat est offerte à un prix très compétitif et 24 heures sur 24. On peut toujours compter là-dessus. C'est tout le contraire, par exemple, que l'image que projette Starbucks avec ses lattés incroyables. Et aussi
sa clientèle. Hein.
Oui, aussi, taille, carrément. Et sa clientèle aussi, qui est souvent caricaturée comme des personnes un petit peu selfie. En tout cas, bref. évidemment, les campagnes caritatives de Tim Hortons ont aussi contribué à cette insertion dans la communauté. On pense aux bénévolats, les camps d'été pour les jeunes, pour les jeunes sportifs aussi. Et pour les mieux nantis, les campagnes comme la loterie Dérouler le rebord, où est-ce qu'on couvre littéralement de cadeaux à la clientèle, que ce soit du café gratuit à la voiture, c'est maintenant vu comme une période festive pour certains. Un second
Mais c'est
Noël.
Vraiment très excitant de gagner un café gratuit.
Quand même. Puis
je
c'est ça.
Je suis jamais allé réclamer mon café gratuit avec le rebord. Je me sens gêné.
Moi, je sais qu'il y a plusieurs de mes collègues là, qui arrivent avec leur Tim Hortons parce que le Tim Hortons n'est pas si loin. Ils sont bien contents.
Ben, c'est ça, c'est l'excuse. Ben, c'est Dérouler le rebord. C'est pour ça que j'y suis allé.
Ben,
Donc, ça, cette volonté de s'insérer puis de demeurer dans la communauté explique aussi pourquoi Tim Hortons, c'est une entreprise qui est un peu, en guillemets, beige, et c'est voulu ainsi. Selon Douglas Hunter, qui a écrit un livre sur l'entreprise, Tim Hortons surfe constamment entre le besoin de se réinventer, comme tu t'en parlais tantôt. On peut maintenant manger des repas, ce n'est plus que des beignes et du café. Sont maintenant, et l'offre aussi au déjeuner est un petit peu plus wild. On a maintenant des wraps au chorizo. Oh là là. Mais aussi, on veut conserver la clientèle fidèle. C'est pour ça qu'on n'abonde pas comme dans les espèces d'obsessions du moment, comme les lattés à la citrouille, comme on peut en retrouver ailleurs. Parce qu'on veut demeurer un point de ralliement. Excuse-moi. Un autre auteur, Pete Blackshaw, qui est un auteur pour Advertising Age, aussi soulevé que les campagnes 2.0 de l'entreprise sur Facebook, par exemple, sont lancées par des fans. C'est des fans qui créent des pages de fans. Sur YouTube, par exemple, on compte un nombre près d'une centaine à peu près de chansons écrites par des musiciens du dimanche, là, c'est vraiment pas orchestré. Alors, Blackshaw, lui, a dit de ça. Pour certains, c'est devenu une seconde maison accessible à toute heure. C'est une idée qui est rassurante. C'est aussi inséré dans notre culture, veut pas, à force de le voir dans notre quotidien. Selon l'auteur du livre sur Tim Hortons, le déclic s'est vraiment fait au cours des années 90, début 2000. Il y a une troupe de comédiens dans le Canada, là, en Ontario, de Royal Canadian Air Force, qui ont commencé à faire une série de sketchs avec des gens qui discutent de l'actualité en buvant du café, en mangeant des beignes, dans un restaurant qu'on ne nommera pas. Finalement, on a tous associé ça à Tim Hortons. Et c'est ça, il y a aussi un journaliste du Globe and Mail qui s'est intéressé aussi sur le sujet. Mm-hmm. Pourquoi on traite autant sur le Tim Hortons? On associe beaucoup ça à la nostalgie. On a grandi avec ça. Les parents
les Timbits.
Exactement, les Timbits entre parents puis enfants avant d'aller à une game de hockey, par exemple, du petit, une pratique. Et c'est des images aussi fortes sur lesquelles Tim Hortons joue beaucoup maintenant dans ses campagnes blister qui sont toujours axées sur la clientèle, les histoires, l'humain, finalement, du client, plutôt que sur les réussites. réussite de l'entreprise. Puis aussi, qui dit nostalgie, dit aussi un peu ironie. Rapidement, Martin, tantôt, disait qu'on remerciait les joueurs de hockey qui venaient signer des cartes, par exemple, avec des Timbits. Eh bien, il y a le DJ Deadmau5 qui publie des fois sur des réseaux sociaux des photos et vidéos où, par exemple, malgré sa fortune, il passe à la commande à l'auto pour un café de Tim Hortons au volant d'une voiture de luxe. C'est un amour. On ne sait pas si c'est sincère ou non, si c'est un peu pour troller. Il y a une réputation de farceur un peu. Mais en entrevue avec Vice, un représentant de Tim Hortons a dit que ça a été... On a remarqué cet amour-là. On a non seulement invité le DJ à venir faire des parties, finalement, pour les employés, mais aussi on le gave en carte cadeau. Alors, c'est encore une pratique de Timbits qu'on conserve. À quelque part... Le succès de Tim Hortons, c'est un petit peu la psychanalyse du pays, selon Pete Blackshaw, qui nous dit que les Canadiens sont insécures culturellement parlant. Ils craignent la domination culturelle et médiatique des États-Unis. Ils cherchent donc à se distancer de celle-ci en portant à bout de bras leurs propres icônes. Alors, on a nos équipes de hockey, on a nos exploits aux Olympiques, on a la CBC Radio-Canada, et puis maintenant, on a Tim Hortons. Et Tim Hortons, en bon Canadien, réagit à ça humblement. On va pas le soulever, contrairement à Molson, par exemple, avec sa campagne I Am Canadian, qui en a rebuté quelques-uns. Alors, c'est ça. Tim Hortons, c'est une entreprise qui vaut des milliards de dollars, mais c'est un peu comme nous.
Oui, c'est vrai.
c'est la même chose, dans le fond.
Ouais, mais je pensais, pendant que tu parlais, que Starbucks ne fait pas de campagne publicitaire à la télévision.
C'est vrai, hein, quand même.
Tim Hortons en fait, McDo en fait.
On s'entend que le revanche du café chez McDonald's, c'est pour réagir face à McDonald's dans les dernières années.
Dans le McCafé.
Ah, au Tim Hortons.
Oui, oui, la refonte aussi. On a de moins en moins de McDonald's. On a maintenant des McCafé. Oui, ils ont flairé la bonne affaire étant de s'insérer là-dedans. Je ne sais pas si ça réussit ou pas, mais oui.
Oui, bonne question. On va écouter une chanson. En fait, c'est ton choix. Oui. Johnny Reed, A Little Taste of Home. Je l'ai écouté tout à l'heure. Donc, c'est une chanson qui parle de Tim Hortons.
Et voilà.
Carrément. Et ça sonne... Canada, Ontario. Là.
Ouais, c'est un double-double.
Absolument. Donc, on a un problème de chanson. Je suis désolée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait un petit peu un moment radio communautaire de François Pérusse.
Non, mais c'est peut-être mieux ainsi.
Moi, ça me rappelait ton Cochrane, là, finalement.
Oui, ce que j'ai envie.
De sous-classe.
C'est comme...
Catégorie B.
C'est comme le Tom Cochrane des pauvres. La 401, tu sais, comme c'est rendu vraiment très deep, là.
Rendu tellement deep, c'était du silence.
C'est mieux ainsi.
Peut-être bien.
On passe donc d'une extrême à l'autre après avoir parlé de Tim Hortons, qui est partout pareil au Canada, là, qu'on le goûte à Vancouver ou à Terre-Neuve, c'est le même goût. On va parler des cafés indépendants à Montréal.
Oui, effectivement. Donc, c'est très drôle qu'on parle justement... de Tim Hortons, parce que, en fait, les cafés montréalais, pour une bonne partie, sont considérés comme des cafés de troisième vague.
Oui, oui, oui.
Oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est de savoir pourquoi la troisième. Faut bien savoir c'est quoi la première et la deuxième. Oui.
C'est une bonne question à se poser. Hein.
C'est une excellente question à se poser. Donc, en allant sur le... J'étais allée voir sur la page Facebook et sur le site Internet de Barista Nation, qui est en fait un site internet qui qualifie les baristas. Il y a des concours à chaque année. À un moment donné, il y en avait eu un à Montréal, d'ailleurs, où ça sonnait à Montréal.
Ah oui,
et,
oui. Ouais.
Et les différents cafés à travers le monde viennent pour, dans le fond, tester qui est le meilleur barista et quel est le meilleur café au goût. Donc,
Faut
voilà.
qu'ils fassent des inventions de café. Il y a
absolument.
Comme, c'est très régulé, ça. Ouais.
Absolument.
Ça a l'air très stressant.
Il y a des juges, puis tout. Là, c'est la grosse affaire. Mais bon, alors voilà. Pour les cafés de troisième vague, mais il faut bien savoir c'est quoi la première puis la deuxième. Donc, la première vague, c'est justement le café qui ne fait que donner un effet de buzz. Comme les Tim Hortons, par exemple.
OK, le café, le café de caféine.
Le café de caféine, tu sais, qui n'a pas un goût, qui a un goût générique, bon, c'est un certain jugement, là, mais comme tu disais, qui goûte partout pareil, un peu partout.
Qui est là pour réveiller.
Qui est là pour réveiller, absolument. Donc, Tim Hortons, c'est un bon exemple de ça. Les cafés chez McDonald's, bon. La deuxième vague, c'est venu avec la démocratisation de l'expresso, puis des cafés un peu plus de gamme, mais ça reste quand même une démocratisation dans un système de masse. Second Cup, Starbucks, où, oui, on développe des produits Donc, autre que juste un café générique, mais ça reste un produit de masse, là, un peu comme les lattés à la citrouille dont tu parlais tout à l'heure.
Les fameux lattés à la citrouille.
Je suis
Vous avez de la bière à la citrouille. Hein?
C'est étrange, ça, là.
Les cafés aromatisés, là, moi, ça me fait capoter que ça soit encore en vente, là, que ça existe encore.
Le panier de la noisette. Là.
Puis c'est super populaire, en plus, en tout cas.
J'avoue que j'ai commencé à boire du café à travers ces goûts-là, parce que ça goûtait pas vraiment le café, mais assez rapidement, c'est comme « Ah, c'est plus bon! »
Excuse-moi. Oui. Je veux dire, je me demande si on allait se rendre à la dérive un peu des chip lays, puis vraiment d'y aller avec des.
Ah!
Faites à ça!
Aromatisé au bacon, vraiment des trucs inattendus. Puis...
Sirop d'érable.
Ouais, genre.
Ouais.
C'est hors de contrôle.
Allez. Faire un concours, là, tu sais, genre inventer votre style.
Ah,
de
c'est une super bonne idée.
Non! Non! Je suis pas d'accord. Puis, donc voilà, pour revenir à la deuxième vague qui peut-être, dans 10 ans, amènera des lattés aux crottes de fromage.
Oh.
Du Saguenay, bien sûr.
Alors, tu sais, tant qu'à être dans l'horreur, allons dans l'horreur. Crottes de fromage, bois vin.
Ben... On n'a pas des produits locaux de monde.
Donc, ça amènerait, en fait, éventuellement des cafés ou Doritos. OK, on
se verra, s'il vous plaît, à l'ordre.
Ça dépend de la sorte de Doritos.
Oui, continue, Rachel.
Oui! Délire! Puis le troisième, donc la troisième...
La troisième vague, oui.
Quoi, hein?
La troisième vague.
La troisième vague. On divaguait, on revient. Oui. Donc, la troisième vague, qui, donc, dans le fond, sont dans la majorité des cafés indépendants montréalais, c'est le café comme étant un goût spécialisé, tu sais, dans plusieurs, justement, la Barista Nation veut que ce soit comme c'était du vin, tu sais, ou de la bière, là.
C'est
avec
de niche très spécialisé.
Vraiment de niche, avec donc différents goûts. En général, c'est des cafés qui sont torréfiés par eux-mêmes, comme par exemple le café Saint-Henri ou Piccolo à Montréal. Et donc, la majorité sont indépendants. La plupart, donc, des cafés montréalais oscillent entre la deuxième puis la troisième vague. Dans le sens où, pourquoi? Parce que c'est pas tous les cafés indépendants qui torréfient leur propre café. Souvent,
ils vont prendre un autre torréfacteur.
C'est ça, ils vont prendre un autre torréfacteur. Comme par exemple, il y a plusieurs cafés montréalais qui ont le café Saint-Henri comme fournisseur de café, dans le fond.
Oui.
Oui, c'était ça. Oui. Donc... Dans les cafés, donc, montréalais, entre autres, par rapport dans certains de ces cafés-là, il y en a... Voyons. Donc, on pourrait faire, encore une fois, à partir de ces cafés-là, une certaine forme de classification qui est plus par rapport à ce que j'ai observé et non pas nécessairement par rapport à un site.
Faut savoir que tu fréquentes beaucoup les cafés indépendants. T'en fréquentes plusieurs, je crois.
Ouais, j'en fréquente plusieurs. Je tiens un blog où est-ce que je recueille des citations de café. C'est très drôle. Oh, oui. Je fais ça dans la vie. ça a l'air, à part en enseigner. Mais donc, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs, donc... Alors, le premier, donc, comme je disais, les cafés qui sont des torréfacteurs, donc qui font eux-mêmes leur affaire. Il y en a, le deuxième, ça serait plus des cafés expérience, c'est-à-dire où il y aurait autre chose que du café. Par exemple, il y a ceux qui font des spectacles, c'est relativement commun, ça, dans plusieurs endroits. Il y en a aussi que ils vendent autre chose à part du café, comme par exemple Atomic Café qui détenait le défunt 7e, où est-ce qu'on pouvait louer des vidéos, et étant donné que les clubs vidéo étant ce qu'ils sont, ben c'est mort. Mais par contre, on peut encore visionner des films 16 mm à l'Atomic. Puis regardez ça sur son écran. Ouais. Il y a un café dans le Milex qui s'appelle 180 Ouh. Grammes.
Ouh.
Dans cette fameuse extension.
Ouais, c'est ça, comme dans ce No Man's Land entre le Milex puis Parc entre le Milex puis Parc Extension.
J'ai récemment dit qu'on devrait fusiller la première personne qui a utilisé ce nom.
Ben non, là.
S'il vous plaît. Je mérite pas ça, là.
Non.
Non, mais plus sérieusement, donc, le 180 grammes, donc, dans ce. Dans cet endroit-là, qui est un disquaire. Puis c'est vraiment au milieu de foutument nulle part. Pour y être allé hier, pour voir. Donc, on vend à la fois du café et des vinyles.
OK. deux marchés de niche.
Vraiment deux marchés de niche. Le café est excellent et ils ont vraiment, en plus, des vinyles vraiment de niche. Là, ils ont une bonne sélection, pour vrai. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Donc, puis, il y en a aussi qui se seraient plus comme entre deux chaises, tu sais. C'est pas... qui servent de la bouffe, mais en même temps, qui sont pas... qui servent de la bouffe puis qui t'horrifient pas leurs affaires, qui t'horrifient leurs affaires, mais en même temps, qui sont pas... pour des produits de niche.
Mmh, mmh.
C'est ça. Donc, en général, si le café est torréfié sur place, ils vont se concentrer sur le café puis ils vendent pas tant de bouffe que ça, à part des viennoiseries et tout. Plus c'est petit aussi, en général, ça va là-dedans.
Il y a beaucoup de travailleurs là, dans les cafés.
Oui, absolument. Mmh. Donc, ouais, oui. Oui.
Est-ce que tu étais rendu là dans ta chronique?
Non.
OK.
Je m'excuse. Donc, c'est ça. En fait, oui, je t'ai rendu, en fait, là, en quelque part. J'en lis mes notes, là, puis oui, je t'ai rendu là. En fait, pour faire la différence entre les cafés de deuxième, première et de troisième vague, dans les Tim Hortons, là, un petit peu plus dans les Starbucks, mais dans les Tim Hortons, là, on va pas travailler, là. On s'installe pas avec son ordinateur pour travailler, tu sais. J'imagine, étant donné que tu visites souvent les Tim Hortons, je fais « André, je te regarde. »
Non, on lit le journal et on discute du journal.
C'est ça.
Ou sinon, on y passe le moins de temps possible pour prendre café et beignet et on s'en va.
Et voilà, tu sais. Dans les Starbucks, c'est un peu plus comme ça, mais il reste que c'est encouragé de ne pas s'éterniser là, tandis que dans la majorité des cafés de troisième vague ou indépendants montréalais, les gens s'y attardent et font autre chose, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles certains ont voulu vendre d'autres produits de niche.
OK, ouais.
Parce que, ben, tu sais, ils y restent, fait que tant qu'à rester...
ce qu'on appelle un public captif, finalement.
C'est ça, exactement. Captif. Donc, tant qu'à rester, ben, on va peut-être te vendre un vinyle, par exemple. Ouais. Puis, la raison pour laquelle, ben, en général, là, pour ceux... J'ai tenté le pouls auprès de certaines personnes qui sont mes amis. Puis la majorité des gens qui vont justement dans les cafés, c'est justement l'équilibre parfait entre c'est calme, puis tu peux manger comme... Contrairement aux bibliothèques, par exemple, où tu peux pas faire ça. Ouais.
Mais chez soi, c'est pas bon. Moi, chez moi, c'est calme et je peux manger.
Ouais, mais je pense qu'il y en a qui veulent un certain bruit, j'imagine.
Ah, OK, ouais.
Ambiant.
Oui, en fait, et même j'ai vu un site web qui offrait le bruit ambiant d'un café qu'on peut écouter chez soi.
OK, l'équivalent de genre ces sites où est-ce que tu vois la pluie tomber.
Oui, oui, oui.
Ça aussi, c'est un produit de niche, là, finalement.
Oui. Ben oui, tu payes pas pour, là, c'est la grosse différence. Mais, j'ai déjà vu ça, certains sites qui offrent un justement, tu mets tes écouteurs puis t'écoutes un bruit de café, ça peut être... Chez toi ou à la bibliothèque, peut-être aussi.
Ouais, mais je suis perplexe.
Moi aussi, parce que moi, je travaille vraiment dans le silence. Je peux même pas aller dans des cafés.
OK, t'écoutes pas de musique ni rien, là.
Mm-hmm. Oh, wow!
Moi, je suis très musique classique, mais
musique classique, je le ferais plus déjà, mais dès qu'il y a de la musique que je connais, faut que je chante, faut que je danse, faut que je fasse de air guitar, là. Tu sais, il y a comme quelque chose, là. Je dois bouger, là, donc... Je suis vraiment pas capable.
T'es pas la clientèle cible, Hélène. Correct, tu sais. T'as le droit. Oui, mais l'affaire, justement, avec tous ces gens qui vont travailler dans les cafés, c'est que, ben, les propriétaires de petits cafés qui veulent pas, eux autres veulent vendre, comme commerce, trouvent que c'est pas super rentable. Parce qu'en général, bien... Les étudiants ou les travailleurs autonomes qui vont dans les cafés, ben ils se prennent une consommation, des fois deux, restent là pendant des heures,
ils s'en vont. Ça, oui.
Donc, il y avait eu un article, il y avait eu un article dans The Gazette qui datait du mois de juillet de cette année, donc 2015, où justement plusieurs propriétaires de cafés se plaignaient de ça. Donc, pour essayer de certains ont décidé d'imposer des restrictions.
Okay.
Par exemple, il y a de plus en plus de cafés, il y a carrément plus de prises, on les cache.
Oh,
on
oui.
cache les prises de courant.
Wow.
Oh, oui, là, ça va assez loin. Ça, c'est l'extrême. Il y en a qui vont, par exemple, sur... Il y en a, par exemple, pour ces restrictions-là, c'est des restrictions avec une certaine forme de compromis. Par exemple, dans un café du village qui s'appelle De Farine et d'Eau Fraîche. Mm-hmm. Eux autres, c'est... tu as pas le droit d'utiliser ton ordinateur de 11h à 13h la semaine.
OK. Donc, puis, des règlements.
Des règlements, c'est ça. Donc, puis pas le week-end non plus parce que, ben, c'est probablement leurs heures les plus achalandées pour des raisons évidentes et donc, ils veulent essayer de se garder une certaine clientèle. Mm-hmm, mm-hmm.
Est-ce qu'ils perdent une clientèle avec des restrictions comme ça? Parce qu'il y a un backlash à certains sens.
Oui. Ben, j'imagine, en particulier, les exemples des cafés que j'avais lus et nommés, c'était des cafés qui, justement, étaient pas proches de cégep ou d'école secondaire ou d'université, par exemple. J'imagine qu'un café, par exemple, Juliette et Chocolat, c'est pas un très bon exemple, mais le Caravane Café, mettons, qui est pas loin de l'Université de Montréal, si le Caravane Café décidait de faire ça, ça serait problématique parce qu'ils perdraient 80% de leur clientèle.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Donc, ça fonctionnerait pas. Mais dans ces cafés-là, donc, les articles, veux, veux pas, c'est un journal anglophone que j'ai lu, c'était dans The Gazette. Beaucoup des cafés qu'ils mentionnaient étaient dans le Myland. Donc, le Myland, c'est aussi au milieu de nulle part et il n'y a pas d'établissement d'institutions supérieures, mettons.
C'est drôle, je croyais que c'était le centre de l'univers.
Ben non, Martin, c'est pas de même, ça marche.
Ça dépend à qui on parle.
Ouais, pour les univers qui vont à l'école, peut-être moins, tu sais. Puis la raison pour laquelle certains veulent, ont décidé d'instaurer ça, il y a le propriétaire du Hors Café, toujours dans ce même article, qui disait vouloir favoriser ainsi une culture de la conversation et de la garder. Donc, dans le fond, que les gens se parlent entre eux et ne font pas juste que travailler sur leur portable.
OK.
Ouais.
C'est romantique, là, mais...
Ouais.
C'est un peu symptomatique, un peu pareil. Là. C'est des genres de drôles de réactions sur tes problèmes et les problèmes financiers que tu as avec ta business, ou je sais pas. Là, c'est,
Oui, oh, oui. Tout à fait. Je sais pas si, dans le fond, c'est d'essayer de patcher quelque chose qui, de toute façon, à mon avis, va toujours rester là. Là. Mais. En tout cas. Mais la question que tu soulevais sur la perte de clientèle possible en voulant essayer de rapatrier une certaine clientèle est très juste et peut effectivement se poser. Pour compenser ce genre de truc, ce genre de règlement-là, il y a des cafés qui, à l'inverse, justement, sont dédiés exclusivement ou se veulent dédiés aux travailleurs autonomes. Donc, où les gens sont encouragés à venir travailler. J'en ai visité un il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est ça. Donc, j'en ai visité un il n'y a pas si longtemps qui s'appelle le Gab sur Saint-Laurent, pas loin de Villeneuve, sur le plateau. Et dans le fond, j'ai interrogé le propriétaire du dit café qui s'appelle Gabriel Dancause. Ah,
OK, c'est le Gabriel Dancause?
Le Gabriel Dancause, là, lui. Là, qui est
propriétaire. Webstar, c'est
ça. Écoute, une star politique. Qui, en tout cas. Puis voilà, donc c'est lui qui a fondé ce café-là, puis à la base, donc, tu sais, le désir de vouloir faire un café pour travailler, c'était pour lui-même. C'était un désir purement égoïste. Le gars est programmateur pour différents organismes et tant public que privé. Puis, il voulait un endroit pour travailler. Donc, pour compenser la chose, il a acheté un local, puis il s'est dit, bon, ben, pourquoi ne pas ouvrir la chose à différents travailleurs? Donc, en gros, si tu n'es pas quelqu'un qui veut réserver une plage horaire, tu peux y aller, mais il y a juste des sofas en avant, puis c'est tout petit. Puis, les tables, il y a des grandes tables en bois qui, elles, sont dédiées exclusivement aux travailleurs. Tu loues à l'heure, une plage horaire, puis ça te coûte un certain montant. En fait.
Okay, c'est comme un nouveau modèle d'affaires. Un peu,
absolument, là, oui. Mm-hmm. Puis, donc, c'est ça, c'est ouvert depuis quelques mois seulement. Mm-hmm. Je lui ai demandé si c'était relativement populaire, là, si ça pognait. Il me racontait qu'il y avait quand même des réguliers. J'en ai interrogé un, d'ailleurs, qui me disait qu'il trouvait ça bien agréable, justement, parce que pour lui, qui n'est pas capable de travailler chez lui, justement, qui procrastine, d'être dans un endroit comme ça, ça lui permet de travailler, justement. Puis en même temps, tu sais, c'est calme, c'est super bien éclairé, il y a des grandes fenêtres, donc pour lui, c'est relativement pratique. Puis, ouais, c'est ça. Donc, on peut louer des plages soit à l'heure ou t'achètes des blocs d'heures de 20 heures, okay, 30 okay. heures, par exemple. Une des observations qu'il avait fait, Gabriel, pendant qu'il a ouvert le café dans les 5 derniers mois, c'est le fait qu'il y a plus de, il y a plus de professionnels qui viennent que d'étudiants. Puis, il y a plus de professionnels que d'étudiants et donc de se demander pourquoi, est-ce que ce serait le prix qui serait rébarbatif pour certains, ben, il sait pas trop, là. Okay. Puis, dans le fond, c'est le truc qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ce modèle-là va se répandre
oui,
pour,
oui,
combler,
fait, oui.
Pour combler le besoin de certains de vouloir travailler dans les cafés. Quelle va être l'évolution du café? Servirons-nous des lattés à la citrouille? Le mystère demeure.
Oui, un latte à la citrouille dans un endroit comme ça qui est finalement entre le coworking et le café.
Absolument, mmh. Oui. Oh, puis il y en a là-dedans qui se parlent entre eux, entre autres, puis des trucs
ça,
comme
ça. Ça peut faire du réseautage aussi.
Absolument, oui. Oui.
Mais merci beaucoup, Rachel. J'ai comme vraiment une part bleue de remettre une autre chanson. La chanson était Café Lézard de Vincent Vallière. Donc, vous pouvez aller l'écouter à la maison si vous voulez faire la véritable expérience Pop en Stock.
Je pourrais essayer.
J'ai une part bleue là, de cette affaire-là. Donc, pour ma part, je vais vraiment. Comme, on parle encore de commerce, mais je vais parler du rôle du café, en fait. Dans la montée du capitalisme.
Oh, wow!
Donc, rien de moins. Wow. On est prêts? Mm-hmm. En fait, le café a toujours fait l'objet de commerce. Même, c'était les Arabes qui ont eu le monopole durant près d'un siècle, selon les dates que j'ai trouvées. Mais à un certain point, c'est comme 500 après Jésus-Christ. Fait que c'est comme un peu... Les dates sont pas très précises, on va dire ça comme ça. Et même que les Arabes, en fait, faisaient tout un effort pour garder ce monopole-là. Ils bouillaient les graines de café pour être sûr que... Les étrangers ne puissent pas les planter ailleurs. Et les étrangers, justement, étaient tout à fait interdits d'entrer dans toutes les plantations de café qu'ils avaient. Ça, le commerce se faisait à partir d'un port de la mer Rouge qui s'appelait Moka. On reconnaît le vocabulaire. Et qui était aujourd'hui l'équivalent du Yémen. Et donc, étant donné qu'il y avait tout ce secret-là autour du commerce du café, ce sont des espions hollandais qui ont volé des graines de café en 1616. Et après, à ce moment-là, au fin du 16e siècle, début du 17e siècle, qu'il y a des cafés qui rouvrent en Europe, dans les capitales d'Europe, et c'est comme une espèce de new big thing, là, la nouvelle expérience à essayer. C'est un bien de luxe, mais c'est un bien de luxe correct, droit. C'est pas comme l'alcool qui rend vers la débauche, c'est ça améliore les facultés cognitives, on se sent plus intelligent avec le café, il y a vraiment toute une espèce de vertu là, qui est associée à ça. Et en plus, c'est promu comme un bien exotique, donc authentique et tout ce qui vient avec ça, là, qu'on retrouve un peu des racines primitives là, en buvant du café. Il y a encore des campagnes de pub qui se base là-dessus. Là. Récemment, j'ai vu Francis Reddy là, qui se rend en Amérique du Sud là, pour faire goûter du café à des Américains du Sud. Dire, ah oui, est ce muy bien.
Cet homme a déjà joué Pete.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que ça date à la même époque que le chocolat est arrivé en Europe aussi?
Un peu près, oui, je pense. Hein? Ben, j'ai pas fait des recherches sur le chocolat, mais si je me fie sur les grands mouvements...
Partez chocolat et café à l'époque, ça doit être comme...
Orange aussi, les premières oranges.
De la poudre de nos jours. Ben.
Mais à l'époque, ben, ça devait être assez rock'n'roll.
Beau parallèle, honnêtement.
Mais à l'époque, c'était toujours un bien d'importation. Le Rhum devait importer le café. Pour faire pousser du café, en fait, faut, à grande échelle, il faut deux choses. Il faut beaucoup de terre et il faut beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est là que les colonies entrent en jeu. Les colonies commencent à peine à l'époque, finalement, à être colonisées. C'est l'époque des grands explorateurs, là, le 17e siècle. L'Europe envoie non pas des missionnaires, mais des personnes un peu fêlées dans la tête, traverser des pans entiers d'océans pour aller dans certaines contrées lointaines qui sont déjà habitées, je tiens à le dire, qu'il y a déjà du monde qui sont là. Et soudainement, l'Europe a beaucoup de terres et ils ont beaucoup de main-d'œuvre à leur disposition. Dans les colonies, ça, il y a de l'espace, il y a du monde. Et il y avait, il y aurait eu une manière de faire qui n'a pas été faite. C'est comme un gros fail là, de la part de l'Europe qui nous suit encore aujourd'hui. Pour la production, l'importation, le commerce à grande échelle du café en Europe, ce sont les grandes compagnies marchandes qui se sont occupées de ça. Au Québec, celle qu'on connaît bien, c'est l'Abbé, parce que c'est l'ancêtre de l'Abbé, c'est la compagnie de l'Abbé du Tson, qui était une compagnie marchande comme ça, qui a été mandatée par le gouvernement britannique, gouvernement et la monarchie britannique. Pour nous, c'était la fourrure, mais dans d'autres sections du monde, c'était le café. Une des plus connues, c'est peut-être parce qu'on est de descendance britannique, c'est le British East India Company, mais la seule qui a été vraiment la plus brutale, c'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Et là, il faut un peu s'imaginer, c'est quoi? J'ai lu que les dividendes étaient de 18 % par année. Ça, les dividendes donnés donc aux actionnaires, c'est énorme là, comme profit. Et ça, c'est pas seulement sur le cours de 5 ans, de 10 ans, de 30 ans, ça a été sur 200 ans qu'ils ont réussi à faire autant de profit. Et ça, je pense que vous voyez où je m'en vais, c'est parce qu'ils employaient des esclaves. C'est là le gros fail de l'Europe. La puissance de ces compagnies, la puissance de l'Europe, par ricochet à l'époque, s'appuie sur des millions de personnes qui ont été totalement vidées de leur humanité. Moi, ça me fait capoter là, quand on y pense. C'est aussi on en parle moins parce qu'à l'époque, c'était c'était pas du tout une préoccupation même, là, mais des millions de kilomètres carrés de forêts vierges ont été brûlés, défrichés pour la culture de produits allant dans les pays du Nord. Je parle de café, mais il y a aussi le thé, le cacao, l'or, le tabac, le sucre, les épices, oui.
D'ailleurs, avant la découverte de l'Amérique, l'esclavage n'existait plus en Europe.
Ah oui?
Il était aboli. C'est un système...
Merci Christophe Colomb.
C'est un système qui tire profit du capitalisme.
Absolument.
Qui a été réintroduit avec les colonisations en Amérique et dans le reste du monde.
Ma foi.
Ça a été disparu d'Europe.
Eh bien.
Ah ben.
Donc, c'est le modèle, finalement, qui est encore présent aujourd'hui, à savoir que, non pas l'esclavagisme, de merci, mais la culture dans des... Ben, quoi que...
Encore, oui.
Ça,
ouais.
On en reparlera tantôt.
À savoir la culture dans des pays du Sud pour l'exportation vers les pays du Nord, mais au bénéfice des pays du Nord, ça prend ses racines à ce moment-là, grâce notamment au café. Et ça fait un débalancement dans la géopolitique mondiale dont on voit encore les conséquences. Si on demande aux Madame Voilée de se dévoiler, c'est un peu parce qu'en tant que Nord-Américain du Nord, on se pense supérieur. Et il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait faire. Mais il fallait aussi... Allez, là, je reviens à l'époque, il fallait que la sauce prenne. J'avais dit que c'est un bien encore de luxe. Il fallait que ça devienne un bien de masse. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé la révolution industrielle. Et là, il faut s'extirper des cycles naturels de sommeil. Il faut... les ouvriers, en fait, ont besoin de stimulants. Ils travaillent des 10, 12, 14 heures par jour. Et le café est là. Le café sert un peu comme à Hamilton des années 50, mais même en des années 1800, le café était là. Donc, les ouvriers ont besoin de café. Le café monte vraiment en popularité et aussi, ça confirme le pouvoir des marchands, ça confirme le pouvoir des bourgeois qui, eux autres, ont tout le temps toujours besoin de plus de café. Et c'est à ton tour, Martin.
Ah oui?
Tu avais
donc, on n'écoutera pas ma chanson de Descendants.
Peut-être à la fin, je vais essayer de la faire jouer quand il n'y aura plus comme d'enjeu, là, mais là...
Donc, moi, je voulais vous parler du café instantané.
Oui, t'as fait une expérience en fin de semaine.
Oui, c'est ça. C'est que moi, au début, je pensais que le café instantané, c'était un plaisir coupable chez les gens. Comme moi, j'aime bien le heavy metal. Puis quand je dis à des gens que j'aime le heavy metal, il y a un regard dédaigneux. Fait que je pensais que le café instantané était un peu comme ça. Fait que là, j'ai fait un sondage sur les médias sociaux. Puis les gens m'ont répondu... Les gens, on s'entend, ça se compte sur les doigts d'une main. Là. Ils m'ont répondu des vastes réponses qualitatives qui allaient entre Arc et York. Fait que là, en tant que sociologue, je me suis dit, je vais l'essayer. Là, tu sais, fait que je me suis mis comme défi en fin de semaine de me passer de ma cave machine espresso et de boire que du café instantané. Et je vais aller d'abondance avec mes nombreux répondants sur Twitter en disant « Oui, effectivement, c'est pas très bon. »
Moi, j'ai l'impression, moi, quand je bois du café instant, ça m'arrive quelques fois par année. Ouais. C'est pas le même breuvage. Je me dis dans la tête, OK, c'est comme...
Non, c'est...
C'est pas du lait, mais c'est comme c'est pas du café. Ça goûte un peu le café.
Mais en fait, c'est du café parce que le procédé du café instantané, on appelle ça de la lipophilisation. C'est pas un homme loup-garou qui aime les enfants, là. Mais c'est un procédé qui veut dire que on retire toutes les formes de liquide sous forme gelée, glacée, comme on fait avec les plasmas et les pleins de médicaments en pharmaceutique. Le concept avait été inventé dans les années 1880 par un Français qui se nommait Alphonse Allais. Qui, lui, avait fait son service militaire et détestait le café au service militaire. Donc, il a fait breveter le concept seulement parce qu'il avait pas pu... Il avait juste imaginé qu'on pouvait faire un café soluble qu'on peut transporter quand on est dans l'armée au front. Et c'est resté comme ça. Lui, il l'a breveté. Ensuite, il y a eu un Néo-Zélandais qui s'appelait David Stang qui a breveté un produit café qui dit air sec, torréfié à air sec. En 1891, et lui, il l'a aussi vendu sous le nom de Stang's Coffee. Mais bien sûr, on est à l'époque du capitalisme, donc tant que c'est pas les Américains qui ont inventé ça, ça ne compte pas.
Ben, un néo-zélandais, là, c'est
pas
assez
mal...
trou, là,
ouais, c'est assez...
on va le dire.
Ben là, franchement,
c'est épouvantable.
C'est un peu condescendant, ce que tu dis là, tu sais. En fait, c'est un Japonais...
C'est
Lord qui habitait aux
États-Unis. Pas Lord of the Rings. C'est Lord of the Rings là, qui a mis la Nouvelle-Zélande sur la map. Là.
En fait, c'est un Japonais qui s'appelle Satori Kato qui habitait à Chicago, qui a inventé le café, qui l'a présenté dans une exposition intercontinentale à Buffalo en 1901. Et qui, lui, a pensé le premier système de café sous lipophilisation. Pardon. Et dans les années 1910, on a commencé à le vendre, le café. Mais c'était pas le principe encore. Le vrai principe est arrivé avec la grosse business dans les années 30. C'était producteur brésilien qui voulait écouler.
Oui.
Non, mais en fait, oui, mais ils voulaient écouler leur stock, leur surplus de café. Et
le
ils ont Brésil, demandé...
dans les années 30, était le plus gros producteur de café au monde.
Très gros producteur de café. Donc, tant qu'en être gros, on va demander à des monstres de nous aider. Donc, ils ont demandé à la compagnie Nestlé de penser à une manière de distribuer le café en Europe. Donc, ils ont demandé à des chimistes de travailler sur une manière de compacter le café.
Okay.
Donc, ils sont revenus sur la technique de lipophilisation. Je veux jamais pas faire de lapsus. Hein, je veux que j'ai dit des choses précédemment. Donc, c'est un chimiste qui s'appelle Max Morgenthaler qui travaillait pour Nestlé, qui a compensé un produit à son procédé. C'est le grain torréfié, moulu, passer dans des grosses cafetières, puis déshydrater.
OK.
Ensuite, on ajoute des hydrates de carbone pour sans goût pour faciliter le
stockage.
Le séchage.
Le fressage. Okay. Oui.
Donc, c'est ainsi que le principe du Nescafé qui a été mis en vente à partir des années 30. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale a fait en sorte que le procédé de lipophilisation a été perfectionné pour envoyer du plasma et de la pénicilline en Europe pendant la guerre.
Mm-hmm.
Mais le café instantané... a connu ses heures a tiré profit de ses développements technologiques. Ce qui fait que dans l'après-guerre, c'est là qu'on a connu l'âge d'or du café instantané. C'est un produit très moderne, très d'actualité pour une époque où tout était en poudre et rapide, devait être instantané, tout c'était le futur de tout. Et le déclin du café instantané est arrivé en Occident un peu avec le déclin, en même temps que le déclin de la carrière de Rod Stewart.
Est-ce qu'ils sont liés?
Je sais pas, peut-être. Donc, mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'autres procédés pour faire du café qui sont revenus à la mode, qui sont la lenteur est arrivée et surtout le bon goût.
Et surtout le bon goût.
Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, selon mon sondage, le café instantané, c'est pas bon.
Ça goûte
donc,
pas le café,
la
vraiment.
Plupart des gens ont redécouvert ou découvert ou le bon goût du café, du café frais. Donc,
je pense aussi, je sais pas si c'était à l'époque, mais des cafetières filtres, des cafetières assez normales, mais qui sont programmables. Donc, dès qu'on se lève, on peut avoir notre café.
Mais en fait aussi, il y a la montée des autres techniques. Par exemple, dans les bureaux, les gens avaient des cafetières... ils apportaient du café instantané parce que les autres... Tu voulais pas faire une grosse cafetière.
Oui, oui.
Maintenant, avec l'arrivée des capsules, ces satanées capsules, on voit... c'est à grand coup d'environ 100 000 sacs de café par année de moins qui se vend aux États-Unis, de café instantané.
Okay.
Tandis que la vente de capsules double à chaque année. Et bien sûr, le café en grains, lui, ne va pas en décroissance. Mais il y a une chose plus importante avec ça, c'est que de nos jours, malgré qu'en Occident, on voit que le café instantané est pas mal moins populaire, la vente du café instantané va toujours en augmentant partout dans le monde. Et
dans le monde, OK.
Dans le monde, oui. Mm-hmm. Et il y a une raison forte à ça, c'est que les Chinois se sont mis à boire du café.
Mm-hmm.
Et du café instantané.
OK.
Parce que c'est plus...
marché émergent.
Comment on dirait? C'est plus pratique parce que chaque Chinois... Je vais parler gras, là, excusez-moi. Chaque Chinois a quand même une théière à la maison, okay. Donc c'est très pratique. Et ensuite, parce que les Chinois boivent environ deux tasses de café par jour.
OK.
C'est la moyenne de...
Mais là, mes petits chiffres là, avec la Finlande tout à l'heure, ça fonctionne pas. Ben non, parce qu'il disait que c'est la Finlande, là. Mais là, si les Chinois commencent à...
Les Chinois boivent deux tasses de café par année.
Ah, oh, par année, j'ai compris, par jour.
Par année. Donc,
OK, désolé.
Oui. Donc, moi, j'en bois, je bois leur moyenne dans une matinée à job. Là, mais c'est ça, c'est plus pratique. Et en plus, dans les usines, où justement, on parlait du capitalisme très rapide, c'est la même chose. Les ouvriers en usine ont un temps précis pour prendre du café. Donc, le café instantané, de l'eau chaude, pour un peu de café, ça réveille. Donc, ce qui fait en sorte que les ventes de café en Chine sont faramineuses,
si vous
parlez de l'expression, puis peu importe. Mais on voit en augmentant, puis ça, je crois qu'on planifie jusqu'en 2017 d'augmenter environ de 10% de consommation dans le monde aussi. Mais ce qu'on dit en plus, c'est justement c'est que le café instantané, comme on disait tout à l'heure, c'est pas nécessairement un bon café. Donc, ce qui fait en sorte que dans un pays où les gens consomment traditionnellement du thé en Chine, il n'y a pas une culture de café comme peut-être même dans les cultures populaires ici en Occident, il n'y avait pas une grosse culture du café.
Mm-hmm.
Donc, on s'imagine aussi qu'il y a cet apport-là, c'est que les Chinois j'aime pas ça de dire les Chinois, mais je me sens comme dans la chanson de Mitsu. Là, j'ai l'impression que je suis sur le bord de dire que les Chinois aiment le Kamasutra. Mais c'est ça. Mais...
Surtout que c'est un grand peuple, un gros peuple, en tout cas, dans le sens
populaire. C'est ça, donc ça peut aller très exponentiellement, aussi la redécouverte. Fait qu'on s'imagine peut-être que, je sais pas quel cauchemar ça peut être, si un jour les Chinois se mettent aussi à prendre du café en grains, ça peut devenir un peu astronomique Il va falloir se trouver une nouvelle planète.
Puis les capsules, ça va être épouvantable s'ils s'y mettent.
Mais que va-t-il arriver au thé?
Je sais pas. Mais moi, ce que j'aime bien de l'histoire du café instantané, là, comme selon mes recherches, c'est qu'il y a quand même de l'espoir dans l'humanité. Hein, c'est que le bon goût, des fois, triomphe.
Ah!
C'est si beau!
C'est là-dessus que je voudrais vous laisser. Tu sais, il y a la guerre, il y a les déversements des goûts, mais on peut se débarrasser d'une industrie par le bon goût.
C'est vraiment, vraiment bien.
C'est bien, finalement, j'aime ça.
Ah oui. Mais n'essayez pas de prendre le café instantané pendant un week-end. Hein,
tu déconseilles ça.
As-tu remarqué des effets sur toi? T'étais-tu plus ou moins éveillé? T'avais mal au ventre.
Ah, j'ai lu aussi que le café instantané avait... C'est pas très démontré, mais il y avait des incidences de plus de cancer chez les gens qui consomment du café instantané que les gens qui consomment du café en grain.
Okay.
Donc,
mais
là, j'ai pas. Même, là, je m'excuse, là, c'est ma spécialité de lire des articles scientifiques, mais j'ai pas poussé la chose parce que.
Pas de problème.
c'est bien correct. Par exemple, il me semble que j'ai déjà lu que le beurre d'arachide donnait le cancer, puis c'est comme on est fait toute la gang, là, parce que comme on en mange vraiment beaucoup du beurre de pinotte. Oui. Donc, je vais essayer de faire fonctionner la consonne. Ça va être la dernière chanson qu'on écouterait. The Descendants, avec une chanson qui s'appelle Coffee Mug. C'est une ode à la caféinomanie et elle dure vraiment pas longtemps. Ah. Donc, c'était ça. Donc...
T'as pas besoin de plus, hein, c'est...
non, c'était convaincant
même. Ça dit exactement ce que ça dit.
Ah, ouais.
C'est la fin de l'émission pour nous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, Martin, Rachel et André. Et pour la semaine prochaine, ça va être Jean-Michel qui va être au micro et ça va être une émission spéciale sur... Sherlock Holmes,
oh.
Et les transmédialités là, de Sherlock Holmes, donc wow. Pas juste la série là, de la BBC. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Au revoir.
Moi je préfère les pyjamas.